RFI. Grand reportage.
Now we have doubled.
Aujourd'hui, la population a doublé, les ressources naturelles se sont amoindries, mais les habitants survivent. Et c'est bien le terme, ils survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Mais la situation empire.
But the thing is going more worse.
Il y a quelques années, l'ONU a prédit que la bande de Gaza pourrait devenir invivable en 2020. Pourtant, plus de 2 millions de personnes habitent toujours dans ce petit territoire palestinien, sans eau potable naturelle, avec un accès limité à l'électricité, cerné par les déchets et une mer polluée. Victime de surpopulation, du manque d'espace, d'épuisement des ressources, la bande de Gaza subit une crise environnementale majeure. Gaza vers une catastrophe écologique, c'est un grand reportage de Marine Vlaovic.
Elle se bat avec les ustensiles. Affairée dans sa cuisine, Reda Abou Safia prépare le repas dans une maison modeste du nord de la ville de Gaza. Pas question pourtant pour cette mère de famille de prendre de l'eau du robinet.
On utilise de l'eau traitée pour boire ou pour cuisiner. L'eau courante est trop salée, c'est dégoûtant. Parfois même, on se lave avec de l'eau traitée.
Pas de lac ni de rivière dans la bande de Gaza. La nappe phréatique, qui gît sous l'enclave palestinienne, est l'unique source d'eau potable de cette bande côtière. Mais l'aquifère est surexploité. Son niveau a baissé à un tel point qu'il est pollué par les résidus chimiques et infiltré par l'eau de la mer Méditerranée située à quelques centaines de mètres. C'est donc de l'eau salée et contaminée que Reda utilise pour arroser les arbres fruitiers rabougris de son jardin.
Cette eau a un mauvais effet sur les humains, mais aussi sur la nature. On peut dire que même les pierres sont touchées. C'est un désastre pour tout le monde.
...95% de l'eau extraite de l'aquifère est impropre à la consommation. Les dommages infligés à la nappe phréatique pourraient être irréversibles. La bande de Gaza souffre d'une pénurie d'eau chronique. Pour expliquer l'épuisement de cette ressource vitale, il faut remonter le fil de l'histoire jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, qui a poussé alors des centaines de milliers de Palestiniens sur les routes.
This is Gaza, let me see.
Ça, c'est Gaza.
Abdelmajid Nasser est ingénieur en environnement et enseigne à l'université Al-Aqsa de Gaza. Les yeux rivés sur son écran, il montre une carte du doigt.
Mais la majorité des habitants de Gaza est originaire des environs. Il y a aujourd'hui 2 millions de personnes. Plus de 70% sont des réfugiés et leurs descendants qui se sont installés ici après 1948. Et c'est un problème, car Gaza doit satisfaire des besoins pour le triple de sa population normale.
Et le déficit entre l'offre et la demande en eau est abyssal. En fonction des saisons, la bande de Gaza peut offrir jusqu'à 70 millions de mètres cubes d'eau par an. Mais les besoins sont évalués à 200 millions de mètres cubes. Alors que la population ne cesse d'augmenter dans cette langue de terre, déjà considérée comme l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, cette crise était déjà prévisible il y a bien longtemps, insiste Abdelmajid Nasser.
En 1996, j'ai travaillé 6 mois avec le ministère de l'Aménagement pour imaginer ce que Gaza serait à l'avenir. À l'époque, quand on a regardé la croissance démographique et l'état des ressources naturelles, nous avons conclu qu'on ne pourrait pas vivre à Gaza. Aujourd'hui, la population a doublé, les ressources naturelles se sont amoindries, mais les habitants survivent. Et c'est bien le terme, ils survivent, ils ne vivent pas, ils survivent. Mais la situation empire. C'est une catastrophe pour l'eau, mais aussi d'autres problèmes.
Depuis sa prise de contrôle par le mouvement islamiste du Hamas en 2007, l'enclave palestinienne est soumise à un strict blocus israélien et à un embargo partiel du voisin égyptien. Après avoir connu 3 guerres en une décennie avec l'État hébreu et de nombreuses escalades militaires depuis 2018, la bande de Gaza est au bord du gouffre. Le taux de chômage, l'un des plus élevés au monde, culmine à 52%. 8 personnes sur 10 dépendent de l'aide humanitaire pour vivre. L'économie est au point mort. Le conflit fratricide avec le Fatah au pouvoir en Cisjordanie s'éternise. Et la crise environnementale s'aggrave. Il y a quelques années, un rapport de l'ONU prédisait que la bande de Gaza pourrait devenir invivable en 2020. Cette sombre prévision a été évitée de justesse. Mais le contexte reste le même, souligne Noël Tsekouras, directeur de l'OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Gaza.
Je suis à Gaza, donc c'est évident que Gaza est encore un endroit vivable, mais ce sont des conditions très très difficiles. Tout ici est un peu artificiel. Si l'aide humanitaire n'arrivait pas ici, Gaza se serait probablement effondré il y a longtemps.
Au chevet de la bande de Gaza, la communauté internationale maintient l'enclave sous perfusion pour tenter de résoudre la crise environnementale. Mais sans vision à long terme, remarque Noël Tsekouras.
Je n'ai pas connaissance d'une stratégie à long terme pour Gaza, je n'en ai pas vu une seule. Il y a bien sûr quelques projets, mais dans un environnement hostile, des échanges de tirs et des bombardements, c'est un peu difficile pour les agences de développement d'investir beaucoup. Nous avons besoin d'une solution politique pour mettre en œuvre ces projets.
L'un de ces projets se situe au sud de la ville de Gaza, face à la mer. Financé par l'Union européenne, implanté par l'UNICEF et ses partenaires locaux, l'usine de désalinisation de Deir el-Balah a été inaugurée il y a 3 ans. Elle peut fournir jusqu'à 6 000 mètres cubes d'eau de mer dessalée par jour à 75 000 Palestiniens de la région. Mais elle est loin de tourner à plein régime en raison de la pénurie d'électricité. À notre arrivée, le système s'affole. Fait rare, à l'occasion de notre visite, l'usine fonctionne grâce à des générateurs. Mais les coupures de courant sont un obstacle majeur pour la production d'eau potable, regrette Kamel Mohammar, le directeur de l'usine.
S'il y a des coupures de courant pendant une opération de désalinisation, ça cause des problèmes. Il faut alors tout recommencer à zéro.
À l'arrière d'un hangar bardé de gros tuyaux, un vaste ensemble de panneaux solaires a été érigé. Mais il est loin de satisfaire tous les besoins actuels en électricité. Pourtant, l'agrandissement de l'usine se poursuit, même si le procédé peut avoir à terme un impact sur l'environnement, avoue Zeidan Abouzouri de l'UNICEF, casque de chantier sur la tête.
Cette usine a un taux de récupération de 45%, c'est-à-dire que si l'on prélève 100 mètres cubes d'eau de mer, seuls 45 mètres cubes sont transformés en eau potable. Le reste, c'est un liquide concentré en sel qui est ensuite rejeté à la mer. C'est pour ça que nous sommes inquiets, car cette forte concentration pourra nuire à l'écosystème sous-marin.
Zeidan Abouzouri assure que des mesures ont été prises pour éviter ce scénario. Mais à deux pas d'ici, une immense usine de désalinisation portée par de nombreux bailleurs de fonds est sur le point de voir le jour. Un projet à 1,5 milliard d'euros pour approvisionner tous les habitants de la bande de Gaza en 2035. Un horizon utopique en raison de la difficulté à importer du matériel dans un territoire sous blocus. Et une fausse bonne solution qui pourrait causer des dommages à une mer déjà polluée. Car la Méditerranée, qui borde l'enclave, est souillée par les eaux usées. Le taux de contamination est ici 2 fois plus élevé que les normes internationales. Même si des efforts sont faits, garantit Manzer Choblak, le directeur général de la compagnie de l'eau des municipalités de la bande de Gaza.
Nous sommes en train de régler le problème du traitement des eaux et nous nous attendons à ce que l'été prochain, les gens se baignent à Gaza.
Des dizaines de millions d'euros ont été injectés ces dernières années dans des infrastructures de traitement des eaux. Mais rien qu'en novembre dernier, 100 millions de litres d'eau usée ont été déversés chaque jour dans la mer. Car la pénurie d'électricité affecte elle aussi le bon fonctionnement de ces usines. Et malgré l'inauguration récente d'un vaste ensemble au nord de la bande de Gaza, la promesse de Manzer Choblak paraît illusoire. Et le directeur est même contredit par sa propre employée, Maha Al-Atsal, qui analyse au quotidien les taux de pollution de l'eau.
Non, c'est interdit, car c'est pollué. Moi, je dis à tout le monde autour de moi que la mer est contaminée. Tous les rapports le confirment.
Cette pollution, Mohamed Assad la voit de ses yeux au moins une fois par semaine. La passion de ce caméraman, plongé avec son masque et ses palmes, pour filmer, dit-il, la beauté des fonds sous-marins inexplorés de Gaza. Mais ses prises de vue montrent une bien triste réalité.
Ça, ce sont des vidéos que j'ai faites quand j'ai plongé. On voit des sacs en plastique et de l'eau marronnasse. Il y a beaucoup de particules, comme après un déversement d'eau usée contenant des matières fécales.
Les matières fécales du système
Mohamed Assad n'a qu'un équipement rudimentaire. Impossible d'importer du matériel de plongée dans l'enclave, car selon Israël, il pourrait faire office de double usage. Avec sa fine combinaison, il se baigne souvent à ses risques et périls, tout comme les surfeurs et les pêcheurs qui sont les rares à braver ces vagues.
Parfois, les vannes s'ouvrent et les eaux usées se déversent pendant que nous nous baignons. Et ça nous cause beaucoup de problèmes, comme des infections. Deux ou trois fois, j'ai eu la gastro-entérite à cause de ça.
Des études estiment qu'ici, plus d'un quart des maladies sont liées à la mauvaise qualité de l'eau en général. Hépatite A, typhoïde, complications rénales et méningite, la liste est longue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est même la première cause de mortalité infantile. Face à ce désastre écologique et sanitaire, Gaza est dans le brouillard, mais reste surtout dans le noir en raison de la pénurie d'électricité. Car l'une des causes de cette pollution, c'est le manque de courant. Les lignes électriques en provenance d'Égypte sont à l'arrêt depuis longtemps. Israël ne fournit au mieux qu'un tiers de la demande. Et même si le fioul financé par le Qatar alimente avec régularité l'unique centrale de l'enclave depuis plus d'un an, Gaza vit avec une dizaine d'heures d'électricité publique par jour. Les habitants utilisent donc des générateurs coûteux et polluants. Mais quelques panneaux solaires commencent à pousser sur les toits de la bande de Gaza, remarque Majd Mashraoui. Entourée d'une petite équipe, la jeune femme a créé l'entreprise solidaire Sunbox il y a 2 ans.
Gaza connaît 300 à 320 jours d'ensoleillement par an. C'est une source d'énergie gratuite que l'on peut utiliser, mais les panneaux solaires sont chers. Donc on a décidé d'installer des panneaux subventionnés.
Sunbox approvisionne notamment les camps de réfugiés et les familles les plus modestes en panneaux solaires, en espérant à terme illuminer Gaza. Mais cette énergie renouvelable génère aussi une grande quantité de déchets.
Parce qu'on n'a pas de courant continu, nous sommes obligés d'installer des batteries sur les panneaux. Celles qui sont sur le marché ont une durée de vie de 1 à 2 ans. Imaginez ce qu'il adviendra dans 10 ans quand les gens auront jeté ces batteries. Mais en fait, nous ne nous tournons pas vraiment vers le futur parce que nous n'avons pas de présent.
On estime qu'au moins 800 000 batteries usagées sont déjà laissées dans la nature. La gestion des déchets sera un problème de poids dans la bande de Gaza à l'avenir. Dans le sud de l'enclave, à Fourari, un nouveau centre d'enfouissement des déchets aux normes internationales appelé SOFA a ouvert ses portes récemment. Samir Matar de la collectivité qui gère le site se tient au bord d'un immense cratère où les camions déchargent les ordures.
We have here the disposal.
On voit ici le site d'enfouissement.
La bande de Gaza génère actuellement 2000 tonnes de déchets par jour. Dans 20 ans, ça sera 2 fois plus, selon les projections. L'enclave risque de crouler sous les ordures en l'absence de système de recyclage, remarque Samir Matar.
La bande de Gaza est très exiguë, mais dans 6 ans, ce centre d'enfouissement sera fermé. Les décharges ne sont donc pas une solution, je sais, mais nous n'avons pas d'autre option pour le moment.
Derrière l'ingénieur se dresse une montagne en forme de pyramide.
This is a mountain of waste.
C'est une montagne de déchets.
C'est ici que sont entassées les ordures générées dans le sud de la bande de Gaza sur les 20 dernières années et qui ne sont pas sans conséquences sur l'environnement.
Le site contamine l'environnement parce que le liquide issu des déchets s'infiltre dans l'aquifère.
Malgré des mesures pour tenter de réduire cet impact, la montagne contribue à la pollution de l'eau et des sols. Des sols déjà largement considérés comme contaminés. En raison du manque d'espace, les agriculteurs font un usage intensif d'engrais pour augmenter leur rendement. Israël a également largué à plusieurs reprises des pesticides sur les champs situés le long de la barrière de séparation en vue de s'assurer une visibilité. Dans sa ferme de Betlaya, tout au nord de la bande de Gaza, pas question pour Akram Abouroussa d'utiliser des produits chimiques. Le quadragénaire produit tous les ans des dizaines de tonnes de fraises biologiques. Une culture gourmande en eau, Akram n'a d'autre choix que d'utiliser son puits pour arroser ses fruits écarlates.
«
Chaque année, on fait analyser l'eau et on y trouve des nitrates, du chlore et du sel. Et nous, les fermiers, nous n'avons pas vraiment d'autre solution que d'utiliser cette eau polluée.
Sa production de fraises est avant tout destinée au marché local en raison du blocus. Un blocus qui oblige les 2 millions d'habitants à subir la catastrophe écologique sans possibilité de fuir. Nous sommes en pleine récolte. Une dizaine d'ouvriers sont à l'œuvre dans les champs d'Akram. En arrière-plan se dressent les cheminées de la station de désalinisation de la ville israélienne d'Ashkelon, qui a dû arrêter ses activités à plusieurs reprises en raison de la pollution de la mer de Gaza. Gideon Blomberg est le co-directeur d'Ecopiste Middle East, une ONG qui regroupe des écologistes israéliens, palestiniens et jordaniens.
Grâce à nos recherches, nous avons découvert par hasard que l'une des 5 usines de dessalement en Israël, celle d'Ashkelon, qui se trouve à 7 km seulement au nord de Gaza, a été fermée par intervalle parce qu'elle ne veut pas dessaler de l'eau polluée. Sauf que son rendement représente tout de même 15% de l'eau potable produite en Israël.
Un rapport récent commandé par Eco Middle East Peace estime que la crise environnementale à Gaza est une menace directe pour Israël. La plus grande crainte de Gideon Blomberg, qu'une épidémie se déclare dans l'enclave palestinienne et n'épargne pas ses voisins.
On est tous dans le même bateau. Si Gaza est en difficulté, alors Israël sera aussi en difficulté. Cette peur d'une épidémie, c'est une sonnette d'alarme pour nous. Gaza peut continuer à être un lieu de grande souffrance, mais Gaza peut devenir aussi une nouvelle Singapour. Il faut un changement de politique, et ça ne pourra pas se faire sans des avancées du processus de paix.
Mais ce processus de paix est en état de mort clinique, et la bande de Gaza est une bombe à retardement environnemental qui menace la région dans son ensemble.
Gaza vers une catastrophe écologique, un grand reportage de Marine Vlaovic, réalisation Ludivine Amadou.
وهي الرابع طير الحب الشادي يغني